liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April. Semaine je sais pas combien, parce que Manu, tu nous as raconté n'importe quoi la semaine dernière.
Et un gros n'importe quoi en plus. La première semaine de l'année, c'est celle qui commence par le premier jeudi de l'année. C'est connu, on devrait tous le savoir, et il a bien fallu que j'aille revoir mes RFC pour en être certain. On est la première semaine de l'année.
Tu m'as beaucoup déçu, Manu.
Moi aussi, j'avoue, j'ai eu des sueurs froides toute la nuit après avoir dit cette grosse connerie.
Bon, alors pour te faire pardonner, tu vas nous faire le sommaire.
Plein d'articles, il y en a 8 que j'ai mis en avant tout d'abord, il y en a plein d'autres à côté, ça a été un vrai calvaire pour faire tout rentrer.
T'arriveras pas à te faire plaindre.
Bah, il faudrait pourtant, hein. Bref, on va parler de la NASA, on va parler de surfer sur des pirate box, on va parler de BD, de religion, de l'ADOPI, de la MPL, la Mozilla Public License, de Stallman et du fait qu'il est enfin reconnu comme le vrai grand homme de l'histoire qu'il est, et on va parler d'humeur et des entreprises.
5, 4, engine sequence start.
ZDNet.fr, la NASA lance un site pour ses projets open source, un article de Thierry Noisette.
La NASA, c'est une grande administration américaine et qui a l'avantage de sortir tous ses travaux dans le domaine public.
Alors, pas tous ses travaux, mais en tout cas un paquet de photos, il y a beaucoup de choses qui sont sous.
Il me semble que c'est tous, parce qu'il me semble qu'aux États-Unis, c'est les administrations par la loi.
Tu veux dire que les plans des fusées sont dans le domaine public ?
Ah, c'est une bonne remarque, il faut voir. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en France, les contenus et les travaux qui sont produits par les administrations ne sont pas dans le domaine public et loin de là.
En tout cas, au niveau iconographique, ça fait une grosse différence, c'est certain. Et donc là, bah, ils ont lancé un portail, c'est un projet en 3 étapes. Le portail code.nasa.gov. Donc l'idée, c'est d'emmener les gens pour participer à des projets libres de la NASA. Ils ont prévu déjà, dans une première étape, une sorte de site pour dire quelle est leur démarche. Ensuite, ils ont prévu de faire un forum pour que les gens puissent discuter, etc. Et en dernier lieu, un site qui va permettre de partager le code et de rentrer dans les projets plus facilement.
Super proposition, super travail. Le site est assez propre et assez simple. J'ai l'impression qu'ils ont reconstruit quelque chose de zéro. Donc, mais a priori, il y a des sacrées têtes là-bas. Donc ils sont capables de faire ça par eux-mêmes.
C'est moi qui l'ai fait.
Lemonde.fr, surfer sans entrave, par Yves Eudes.
Alors ça, c'est quelque chose que t'adores, c'est la Freedom Box.
Non.
Comment ça? Non, c'est pas la Freedom Box.
Non, c'est la Pirate Box. Ça n'a rien à voir. La Pirate Box, c'est un petit montage qu'on peut faire pour une centaine d'euros et qui consiste à faire un équipement portable qui fonctionne sur batterie et qui permet de monter un petit réseau Wi-Fi localement sur lequel les gens, n'importe qui, peuvent venir se connecter et télécharger des trucs.
Ouais, en gros, t'arrives dans un bar, tu poses ta... Alors là, dans l'article, il parle d'une lunchbox.
Une lunchbox, ouais, donc c'est...
Ouais, c'est la boîte à déjeuner américaine.
Voilà.
Et donc sur cette lunchbox, t'as une tête de mort.
Oui, alors c'est plutôt ce qui est dans la lunchbox qui fait la différence. Moi, je trouve ça super rigolo et j'ai toujours eu envie d'en faire une, je le ferai sans doute un jour. Je pourrais par exemple permettre de partager des logiciels libres et de la musique sous licence libre, des choses comme ça. Rien que des trucs totalement légaux, et voilà, moi je trouve ça très sympa dans le principe.
Aucun film ou aucune musique de Britney Spears ne transitera jamais par cette pirate box, on est certain.
Bah, pas par la mienne en tout cas, si je la monte.
Oui, on verra ça. Si vraiment il y a de la liberté dans ta boîte, hein, tu devrais permettre ces usages. Mais bon, c'est une jolie freedom box en tout cas, un joli article.
Une pirate box.
On va passer à la suite. Donc, écran. Alors, j'ai pris le mauvais titre, hein, il est difficile à dire. Philactnerds, Encyclopédie Geeks, de Camille Gévaudan, je suis content de moi.
Donc, c'est un article qui présente des petits crobards, des dessins faits par un type qui s'appelle Giraudeau, rien à voir avec l'acteur connu, et qui fait des petits dessins humoristiques à base d'humour geek.
Tu m'as dit que c'était des jeux de mots moisis, non, c'est ça?
Moi, je suis pas super fan, mais je sais que toi t'aimes bien. Alors c'est...
Ah oui, non, j'avoue que c'est pas mal fun. En plus, il fait des dessins qui sont repris sur des sites comme Framasoft et Framablog. Et bien, il essaye d'expliquer certains termes, des termes de geek, des termes de logiciel libre. Moi, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Le dessin en lui-même est pas forcément Voilà, c'est pas de la BD qu'on achèterait dans le commerce ou quoi que ce soit. C'est sous licence Creative Commons, donc quelque part, ils contribuent à la culture générale et ils permettent de diffuser ces créations-là. Moi, j'adore.
01net, le copisme, religion officielle du piratage en Suède, par Hélène Puel. C'est une blague.
Non, et je suis enchanté, on va enfin pouvoir parler religion dans cette revue de presse. Ça faisait longtemps que je voulais aborder ce sujet-là et ça me manquait.
Donc les Suédois qui s'étaient déjà distingués en inventant le parti pirate, donc qui justifiaient politiquement toutes ces questions de copie et ce genre de choses, viennent d'inventer maintenant la religion correspondante.
Le copisme.
Ils y croient vraiment ?
Alors, en tout cas, moi je veux y croire. Je sais pas comment on y rentre, c'est quoi la cérémonie de baptême, mais moi je trouve ça génial, c'est le copisme, superbe, et reconnu par l'État, si je comprends bien.
Effectivement, c'est la manœuvre qu'ils ont faite, je pense que c'est plus ça qui les intéresse que le reste. C'est de dire que le choix de copier, etc., est une religion, ils ont été reconnus comme tels, et je suppose que quand on ira leur chercher des poux dans la tête, ils diront que c'est un harcèlement en raison de leur croyance religieuse. Je sais pas trop où ça va les mener, mais bon, c'est assez rigolo.
Alors, pour continuer, on va passer sur un autre sujet qui a vraiment rien à voir, les institutions françaises. Donc, PC Impact, trois nouveaux entrants rue de Texel, dont un député anti-Adopi de Marc Ries. Bah là, on va parler de la Adopi, ça fait pas rire.
Oui, c'est l'Adopi qui donc, se trouve rue de Texel. Et en fait, il y a un collège donc, avec des gens qui sont là pour vérifier que tout se passe bien. C'est la fameuse autorité indépendante. Et donc, c'est renouvelé par tiers tous les deux ans. Et comme évidemment, le truc a démarré, certains étaient là que pour deux ans en attendant que le truc se mette en place. Donc, il y avait des postes vacances, ce qui a fait rire du monde parce qu'ils sont un petit peu endormis dessus et il n'y avait plus personne à l'Adopi. En tout cas pour valider le truc pendant quelques semaines.
Oui, en quelque sorte, le quota n'était plus là et donc ils n'étaient plus vraiment dans les clous de la loi et des décrets.
Tout à fait. Donc ils ont fait rentrer qui ça ?
Alors c'est le député Didier Mathus, donc, qui est considéré dans l'article comme un cheval de Troie.
Oui, puisqu'en fait il s'était sérieusement opposé à Dopi pendant les débats à l'Assemblée. Ça fait partie des quelques députés qui connaissent le sujet et qui a essayé de casser le truc. Et c'est donc le président du Sénat qui a le droit de nommer quelqu'un, ou en tout cas s'y mettre à plusieurs, et qui a décidé et proposé probablement à ce gars-là de rentrer dans la Dopi. Donc on peut supposer qu'il va surveiller ça de très très près et qu'ils ont intérêt à filer droit.
Finalement, l'alternance au Sénat va avoir des conséquences auxquelles on ne pouvait pas forcément s'attendre. Développé.com, Mozilla annonce la version 2 de sa licence. La Mozilla Public License se positionne entre les licences Apache et GNU de Gordon Fowler. Donc la MPL...
Donc c'est la Mozilla Public License, que c'est entre le copyleft et les licences non libres mais non copyleft, comme la licence Apache ou la BSD. Donc on sait que ces deux derniers types de licences non copyleft ont plutôt le vent en poupe ces temps-ci, hein, la part de la JPL est en train de baisser.
Parce que le nombre de projets qui font du libre augmente, mais qu'ils n'utilisent pas forcément cette licence.
Tout à fait, et on en a parlé ces dernières semaines. On a plein de grosses boîtes qui ont investi le domaine de l'open source, comme ils aiment le dire. Principe de copyleft, hein, qui dit qu'on doit reverser les modifications quand on diffuse son logiciel. Ils aiment pas trop, qu'ils vont pas pouvoir faire leur magouille dans leur coin comme ils veulent et faire leur machin, et donc du coup la JPL a un peu tendance à reculer. Et c'est vrai que cette question de l'articulation entre propriétaire et libre, c'est toujours très compliqué.
Et donc là, de ce que je comprends, parce que j'ai pas été creusé exactement dans la licence, il s'agit de permettre à ce que du code libre soit intégré dans du code propriétaire sans forcément que le code propriétaire passe lui-même en libre. Donc ce que fait généralement la JPL, quand vous prenez du logiciel JPL que vous l'intégrez dans un autre, l'autre devient JPL naturellement. Donc là, ils ont trouvé une sorte de juste milieu, et en plus de simplification, ils permettent de mieux travailler entre les licences, et ils permettent à ce que la JPL et la MPL puissent fonctionner plus facilement dans les mêmes projets.
Framablog, Stallman avait malheureusement raison depuis le début, un article de Tom Olwerda. Donc c'est une traduction de Framalang, on va pas citer tous les traducteurs, ils sont super nombreux, mais bravo à eux.
Donc ça commence bien, il parle du cauchemar paranoïaque et apocalyptique d'un geek psycho-rigide, et ce cauchemar est en passe de devenir réalité, ça fait peur.
Stallman, on le connaît, il a souvent été, on sait qu'il a un caractère assez particulier, souvent été considéré comme une sorte d'extrémiste jusqu'au boutiste, etc. En tout cas, il a toujours posé comme principe l'absolue nécessité d'avoir la maîtrise de son informatique pour des questions de liberté, etc. Alors on dit, les libertés, c'est important, mais elles ne sont pas réellement en danger, on a une démocratie, tout ça. Et il s'avère qu'il y a des lois qui arrivent actuellement aux États-Unis, hein, c'est un article américain à la base, qui vont permettre, notamment pour la partie Internet, fermer certains sites qui ne conviendraient pas. D'autres lois qui permettent d'enfermer à peu près n'importe qui sur des prétextes de terrorisme. Il faut savoir que les gens qui squattent devant Wall Street ont été considérés comme des terroristes de basse intensité. On a tous les éléments d'une dictature qui sont en train de se mettre en place, et chez nous, c'est pas franchement mieux, entre Adopi, Lopsi, etc. On a des tonnes de trucs qui ressemblent furieusement à ça, et c'est probablement pas fini.
Il y a une sorte de combat entre les anciens et les modernes, les anciens qui ont le pouvoir, ou qui l'avaient, qui se réveillent et qui commencent à comprendre qu'effectivement, avec Internet, on peut faire des choses un peu miraculeuses, on peut communiquer, utiliser des technologies, et qui se mettent au goût du jour. Et là, l'article, il fait une remarque, c'est que ces gens-là, ils sont en train de se réveiller et penser que, bah, après tout, la Chine, le Kazakhstan et autres pays, ils arrivent à bloquer leurs citoyens, pourquoi est-ce que nous, on n'y arriverait pas ?
Alors, ce qui manque peut-être dans l'article, en tout cas dans ma vision du problème, c'est cette question que Internet a permis des choses qui n'étaient pas possibles avant, et qu'on a l'impression d'avoir un recul des libertés, donc c'est effectivement le cas, je pense, sur une échelle de 5-10 ans, mais disons qu'on a eu une bouffée de liberté complètement hallucinante avec Internet, parce que personne au sein des élites n'a compris de quoi il s'agissait, mais que dans l'ancien monde, celui des mass médias, etc., tout était déjà très verrouillé, de façon pas hostile, hein, sans avoir besoin d'utiliser des méthodes de flicage extrêmement dures, mais simplement par le jeu, d'avoir des gens qui marchent bien dans le système, des systèmes de financement, des questions, ce que Bourdieu appelle le monopole de l'universel, donc où l'État va dire voilà la vraie culture, voilà le vrai savoir, etc. Donc tout ça, Internet met tous ces trucs en position très inconfortable, et donc aujourd'hui on a, à mon sens, une réaction des gens qui avaient le pouvoir et qui contrôlaient ça, et qui ont aujourd'hui envie de casser les pattes, et la seule méthode qui leur reste, c'est la brutalité. Dernier article, silicone.fr, humeur, halte aux entreprises qui parasitent le mouvement open source, par David Feuget.
Alors c'est un habitué de la revue de presse, il a fait pas mal d'articles qui sont montés de notre côté.
Alors il a l'air pas très en colère, parce qu'on voit sa photo, il a un grand sourire.
Oui, enfin oui.
Mais voilà, c'est un petit article qui a le mérite de pointer justement les dérives qu'il peut y avoir. Open source, c'est le buzzword, le logiciel libre, ça n'intéresse plus personne. Mais c'est le buzzword et il y a plein de boîtes qui sont en train de se lancer là-dedans et qui font du business qui n'ont pas grand-chose à voir avec les principes, mais qui utilisent le buzzword pour se faire connaître. Bon, c'est toujours pareil, dès qu'il y a un truc qui devient un peu en pointe à la mode, etc., forcément c'est récupéré et rattrapé. Donc David Feuget tape du poing sur la table et il distingue notamment deux trucs. L'open core, donc là on a une sorte de logiciel système central et tout ce qui ne sert à rien sans tous les systèmes périphériques qui eux vont être propriétaires, payants et complètement verrouillés. Et l'open API qui est un petit peu l'inverse, où on va avoir effectivement du logiciel open source libre, ou je sais pas comment ils veulent l'appeler, mais que tout ce qui va permettre d'utiliser ce truc-là va être payant, fermé, verrouillé.
Bon, en tout cas, je sais qu'il va nous faire plein d'autres articles, et là, taper du poing sur la table, ça fait pas de mal, mais...
Sauf à la table.
Bon, peut-être que des gars comme Apple vont se réveiller un jour et vont se rendre compte que le code qu'ils ont récupéré, qui est libre, mais il faut le reverser et le remettre dans la communauté.
Ah oui ?
Et ce serait ça qui permettrait de ne pas se faire nommer parasite.
Toi, je pense que tu es mûr pour te convertir au copiste.
Je pense aussi. Donc, bon. Je vais regarder la cérémonie de baptême et on en reparle la semaine prochaine.
Voilà. À la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.